Bienvenue dans Allô, ici Bouvard, jusqu'à midi sur RTL. Philippe Bouvard est avec vous pour vous faire partager ses petits billets d'humeur. Bonjour Philippe.
Bonjour Virginie, et puis je vous préviens tout de suite, on va parler une fois de plus de ce qui ne va pas, et en étant d'ailleurs débordé par l'affluence des sujets. Mais si on parlait de ce qui va, on pourrait nous accuser à juste titre d'être à la fois aveugle et sourd. Alors bon, il faut bien se préoccuper des trains qui n'arrivent pas à l'heure, en espérant qu'il continuera à y avoir des trains.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Alors pour commencer, une question sur l'état d'urgence dont on ne cesse de parler, mais pour dire dans la phrase suivante qu'il vaut mieux ne pas l'employer. Moi je pose la question, hein, une question toute bête, hein, une question de citoyen lambda, des lecteurs de la base. Est-ce que l'état d'urgence dont on parle beaucoup, mais que personne ne veut plus appliquer, ou presque, effraie davantage les juristes que les casseurs? On peut le croire. Bon, c'est pas nouveau l'état d'urgence. Hein. C'est un état d'exception que on promulgue lorsqu'il y a une atteinte grave à la sécurité et à l'ordre public. Et d'ailleurs, on a eu l'occasion de l'expérimenter d'abord pendant la guerre d'Algérie à plusieurs reprises. Et à l'époque, c'était sous Mendès France et sous Edgar Faure. Et puis un peu plus tard, Chirac a décidé d'y recourir lorsqu'il y a eu des émeutes en banlieue. Et puis, je vous rappelle que le soir même de l'attentat du Bataclan, Hollande a décidé l'application de l'état d'urgence qui n'a cessé ensuite que lorsque Macron l'a supprimé, mais c'était dans le mois de novembre qui a suivi son élection. Et d'ailleurs, on pouvait remarquer à l'époque que tous les candidats à la présidence avait demandé l'abrogation de cet état. Alors aujourd'hui, il y a deux sortes de reproches que l'on fait à l'état d'urgence. Le premier, c'est d'être, mais par définition, anticonstitutionnel. Oui, mais enfin, on prend les mesures qu'il faut pour que ce soit compatible avec la loi. Il y a quand même des instances de régulation et de contrôle. On ne peut pas faire n'importe quoi, sauf que on peut exiger la remise des armes à feu, on peut exiger la fermeture de certains sites sur Internet. Et puis, alors, il y a le reproche de doublons, c'est-à-dire de mesures qui existent déjà dans l'arsenal législatif ordinaire. Par exemple, ce qui concerne les perquisitions administratives et l'assignation en résidence. Bon, bref, on n'est pas sorti de l'auberge, mais c'est quand même un recours, et un recours qui permettrait un certain durcissement, fût-il momentané.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Une équation à trois inconnus. Qui donne? Combien donne-t-on? Et à qui donne-t-on? Et la question, je vais la poser à quelqu'un qui porte un superbe titre, puisqu'il est le président de France Générosité, Pierre Séquillier. Bonjour, monsieur le président.
Bonjour, bonjour.
Alors, c'est formidable d'être en charge d'un bon sentiment à une époque où il y en a tellement de mauvais qui semblent prévaloir, hein?
Oui, c'est sûr, et c'est vrai que nos ONG, associations, fondations font un travail absolument extraordinaire avec tous leurs bénévoles.
À combien estimez-vous le nombre de Français qui mettent encore la main à la poche pour une bonne cause?
Écoutez, à peu près un Français sur deux donne au moins une fois par an.
Aujourd'hui, il y a quand même un peu moins de donateurs, mais on note, je crois, que certains se montrent plus généreux.
Alors, ce qu'on constate cette année, c'est un double phénomène, c'est-à-dire que vous savez que l'impôt sur la fortune a été transformé en impôt sur la fortune immobilière, et que donc là, comme il y avait moins de contribuables éligibles au nouvel impôt, il y a eu moins de dons, et on a perdu quand même à peu près 150 millions d'euros à cause de ça. Donc ça, c'est un premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est le pouvoir d'achat. Hein, on en entend parler tous les jours. Ouais. Et c'est vrai que l'année dernière, quand il y a eu la hausse de la CSG sur les retraités, c'est vrai qu'on a constaté, nous, une baisse de cotisation des moins riches, c'est-à-dire ceux qui donnaient. C'est pas pour ça qu'il y a eu beaucoup moins de donateurs. Les donateurs ont plutôt moins donné, d'ailleurs, que parce qu'ils n'avaient plus les moyens ou ils avaient moins de moyens. Voilà.
Et puis, il y a ce que j'appellerais par euphémisme le malaise social. Par exemple, les promesses de dons du Téléthon n'ont pas été cette année à la hauteur des précédentes.
Oui, alors là, il y a deux facteurs. C'est qu'effectivement, il y a le pouvoir d'achat sûrement, mais il y a aussi le fait qu'ils n'ont quand même pas eu de chance parce qu'ils sont tombés le plus mauvais week-end qu'il soit. C'est-à-dire qu'ils ont été obligés d'annuler je ne sais combien de manifestations qui étaient prévues. Et donc, du coup, c'est vrai qu'ils ont fait un moins 7 ou moins 8 %, ce qui, franchement, est un bon score parce que ça aurait pu être beaucoup moins intéressant. Hein.
Alors, j'ai noté dans le même temps qu'on avait battu certains records dans ce domaine qui nous intéresse, à Versailles, mais aussi dans certaines communes auvergnates dont la tradition ne saluait pas jusqu'à présent la générosité.
Oui, mais si vous voulez, je pense que les Français restent généreux. Je pense que ce qui les empêche un peu de donner, c'est aussi la situation économique, c'est sûr. Et puis, mais ils continuent de donner, et puis ils continuent à être bénévoles beaucoup dans nos associations, ce qui est aussi un élément clé hein, du lien social dont on parle tant aujourd'hui. Parce que les gens continuent d'être dans la solidarité et dans la générosité, ce qui est très bien.
Et puis alors, il y a eu le nouveau phénomène qui met beaucoup de gens mal à l'aise, cette collecte en faveur du boxeur avait gravement attaqué des gendarmes. Heureusement, Renaud Muselier, le président de la région PACA, a trouvé immédiatement la parade en organisant, lui, une collecte en faveur des forces de l'ordre. Mais tout ça, c'est nouveau, hein?
Oui, alors c'est ce qu'on appelle du formidable mot anglais crowdfunding. Donc c'est vrai que c'est un canal de collecte qui commence à prendre forme. Hein. C'est encore très petit en termes de montant, mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que les gens dans cet appel à dons au travers du réseau internet, c'est pour un projet donné. Ce qui se passe pour le policier là. Hein.
C'est-à-dire que faudra-t-il déterminer comment on distribuera le montant de la collecte ?
Voilà. Mais ça, bon, si ça passe par des ONG qui sont chez nous, la collecte, la distribution, après, ce sont les ONG enfin, qui ça fait rentrer dans leur montant de collecte. Donc ça, il n'y a pas de souci quand c'est les ONG qui font ça.
Alors, heureusement, il y a des causes qui sont traditionnellement soutenues en faveur de l'enfance, pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion, et en faveur de la recherche médicale. Ça perdure, hein.
Ah, tout à fait. C'est-à-dire que c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est les trois causes principales qui intéressent les Français aujourd'hui. Et voilà. Donc c'est sûr que nos associations ou nos fondations, elles gèrent l'exclusion sociale, elles gèrent le handicap, elles gèrent la recherche médicale fondamentale ou appliquée. Donc c'est vrai que ça intéresse beaucoup les gens et les gens continuent de donner réellement. Ce qui est intéressant de noter, c'est que les gens sont très fidèles. Hein. C'est-à-dire que vous avez plus de 80 ou 90% des gens qui donnent régulièrement, ce qui est un phénomène très intéressant par les temps qui courent.
En revanche, comment expliquez-vous la baisse que certains qualifient déjà d'historique en ce qui concerne les fonds recueillis par le denier du culte ou les partis politiques ?
Alors, les partis politiques, je ne me prononcerai pas parce que ce n'est pas notre job. Par contre, sur les deniers du culte, le denier du culte s'est plutôt bien tenu cette année. Il y a eu quelques baisses, mais il subit la baisse générale de presque 10% sur cette année à peu près. Hein. Faut en tirer les conséquences après, c'est-à-dire qu'il faut qu'on argumente plus sûrement sur nos missions sociales.
Est-ce que les scandales qu'on a enregistrés il y a bien des années ont détourné beaucoup de donateurs, et notamment en ce qui concernait des frais de fonctionnement dont on sait aujourd'hui qu'ils peuvent s'établir entre 1 et 55%, excusez du peu. Hein.
Oui, alors ça c'est quand même bien fini quand même. Honnêtement, il y a eu des scandales. Nos fondations et associations, elles sont très contrôlées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez même la Cour des comptes fait des contrôles réguliers sur les fondations reconnues d'utilité publique aujourd'hui. Les conseils d'administration qui sont aujourd'hui bien mieux nommés qu'avant sont constitués de personnalités qui sont très vigilantes. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas établir non plus de ratio standard pour la gestion d'une ONG. Il y a des ONG qui ont plus de frais parce que la collecte est plus compliquée et plus difficile, puis il y a des ONG qui n'ont pas de problème parce que leur... leur collecte est plus naturelle. Donc, c'est vrai qu'il y a des écarts en termes de ratio, mais c'est quand même, globalement parlant, on a fait énormément de progrès. Et je peux vous dire que toutes les associations, elles sont très, très conscientes du fait que la transparence et la confiance, c'est la clé hein, de la générosité.
Ça, est-ce que clair. Vous accordez la palme de la rigueur à Personnage, l'association qui avait fondé le regretté Lino Ventura?
Mais Personnage est une très bonne association, donc il n'y a pas de problème là-dessus non plus. Donc c'est vrai que il faut la confiance, elle est vraiment rétablie. Et je pense que si vous allez sur les sites internet de tout le monde donne des essentiels, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est les chiffres clés avec justement les frais de fonctionnement, la collecte, comment elle vient, d'où elle va et surtout où elle va, à quoi on sert.
Avez-vous autorité et contrôle sur les dons en nature?
Alors, les dons en nature, s'ils passent par nos associations, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a les banques alimentaires en particulier qui recueillent pas mal de choses là-dessus. Et effectivement, ça rentre maintenant dans un processus qui est très codifié, puisqu'il y a une valorisation des dons en nature. Donc tout ça est en... Alors tout n'est pas contrôlé parce que c'est beaucoup de dons locaux, hein, mais dans la majeure partie des grands groupes aujourd'hui, tout est très contrôlé, oui.
Mais les Restos du Cœur sont de plus en plus importants, qui reçoivent même, dit-on, des legs.
Oui, tout à fait. Parce que c'est une association comme une autre, c'est-à-dire qu'elle fait appel à la générosité publique, elle est reconnue du TBI public, donc du coup, elle bénéficie elle peut recevoir des legs, effectivement, comme les autres, comme toutes celles qui sont reconnues.
Est-ce que vous êtes bénévole, Monsieur le Président?
Absolument, tout à fait. J'ai fait une bonne carrière et donc je suis ravi d'offrir mon temps et peut-être quelques compétences à ce grand sujet, tout à fait.
Eh bien alors, un double bravo et un grand merci.
Merci, à la prochaine.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Alors, autre question pour laquelle il n'y a pas de réponse, mais il faut dire qu'il y a peu de gens qui ont l'air de la poser actuellement. Est-ce que la fusion de l'ANPE et des ACEDIC a été bénéfique? Bon, au départ, ça avait l'air d'être une mesure salutaire, hein, un mariage qui devait faire diminuer le nombre des enfants à charge. Et puis à l'arrivée, ben, c'est raté. Hein. C'est raté parce qu'il y a plus de 6 millions d'inscrits, qui est considérable, regrettable et dommageable à la fois pour l'économie du pays mais aussi pour le moral des citoyens. Il y avait aussi une autre ambition qui était celle de faire baisser le nombre des conseillers affectés au traitement de chaque cas en les rendant d'ailleurs ces conseillers plus efficaces. À l'époque, je crois, un conseiller s'occupait de 120 dossiers. On avait dit on va faire baisser à 60 le nombre de ces dossiers. Et puis, bon, les mois ont passé, le mariage a eu lieu et c'est complètement raté puisque aujourd'hui, un conseiller n'a pas moins de 200 dossiers différents sur son bureau. On avait dit, ah oui, mais on va faire baisser le nombre de fonctionnaires. Pôle emploi emploiera moins de monde, par définition, que l'ANPE et les ACEDIC réunis. Eh bien, c'est raté aussi, il y a 20 000 fonctionnaires de plus. Hein. Alors, il y a, bon, bien sûr, il y a un projet, toujours, on dit qu'en 2020 ou en 2022, il y aura 7% des effectifs en moins, mais ça reste à vérifier. Alors, ce qu'on peut dire quand même aujourd'hui, c'est qu'il y a eu du positif, c'est-à-dire qu'on a un peu simplifié la vie des chômeurs qui n'ont plus besoin d'aller pointer et qui peuvent signaler leur présence et éventuellement leur recherche à partir de leur ordinateur. Et puis, il y a certaines entreprises qui ne cachent pas qu'elles engagent plus facilement. Et puis, alors, il y a ce qui est négatif. Alors, ce qui est négatif, c'est que les chômeurs de longue durée et les chômeurs de plus de 50 ans ont été multipliés par 3. Et ça, c'est la plus grosse faillite. Et puis alors, un chiffre qui ne trompe pas, la durée moyenne du chômage. Avant la grande réforme, elle était de 387 jours. Elle est montée aujourd'hui à 610. Alors je vous pose la question, où est le progrès?
Allô, ici Bouvard sur RTL.
La disparition des abeilles peut-elle sonner le glas de l'espèce humaine? Eh bien, il y a quelques pessimistes qui commencent à en parler, mais je note que jamais Nicolas Hulot, au temps où il était ministre d'État, chargé de ces problèmes, n'avait évoqué une possible disparition. Alors, il y a quelqu'un qui est mieux placé que les ministres, hein, c'est l'apiculteur. Et celui que je veux faire parler aujourd'hui est Marc Rolly. Bonjour Monsieur Rolly.
Bonjour Monsieur Bouvard.
Alors, vous possédez une soixantaine de ruches en Alsace et vous êtes moins inquiet que certains observateurs.
Alors, je suis moins inquiet que certains observateurs, effectivement. On constate malheureusement une mortalité qui s'accroît, hein, mais pas forcément dans les mêmes contextes que ceux dont on nous parle régulièrement.
Bon, mais enfin, si les abeilles ne sont plus au rendez-vous, qui assurera la pollinisation? Pas les papillons, quand même.
Alors, les papillons peuvent assurer une part de la pollinisation, effectivement. Le vent, pour certaines cultures. Après, effectivement, la disparition des abeilles serait une catastrophe écologique majeure. Il y aurait des conséquences certaines sur l'humanité, sur la santé, mais sur l'économie aussi, mais pas forcément l'extinction de l'humanité, comme vous l'avez dit tout à l'heure.
Le règne végétal serait plus compromis.
Oui, oui, dans une certaine mesure. C'est surtout au niveau des cultures que ça poserait problème. Parce que, je vous donne un exemple, un fruit pollinisé par une abeille aura de meilleure qualité qu'un fruit pollinisé mécaniquement, parce que ça se fait aussi, hein, y a des recherches qui se font là-dessus.
Alors aujourd'hui, tout le monde s'accorde à louer le travail des apiculteurs, qui sont en France moins nombreux qu'ils ne devraient être, puisque on n'arrive pas à produire autant qu'on consomme. Hein.
Alors oui, effectivement, il y a une forte demande. Après, c'est une production qui est un petit peu plus aléatoire et un peu plus complexe. Par contre, c'est aussi une production que bonne partie des Français peuvent éventuellement faire dans leur jardin, le développement d'une ruche. C'est extrêmement intéressant.
Alors à ce propos, comment expliquez-vous, et ça on en parle depuis déjà un certain temps, que les chères abeilles se trouvent mieux dans un environnement urbain qui décourage souvent les bipèdes que dans pleine campagne?
Alors ça c'est pareil, c'est quelque chose que je n'ai pas pu vérifier de mon côté, n'ayant pas de ruche en ville.
Non, enfin vous savez qu'il y a des ruches sur le toit de l'Opéra de Paris qui donnent particulièrement bien.
Tout à fait. Je peux vous donner un petit exemple.
Oui.
J'ai des ruches qui sont en plaine, donc en plaine d'Alsace, entourées de cultures, de céréales, qui sont donc des cultures qui sont traitées. Et dans ces ruches, je n'ai pas plus de mortalité d'abeilles que dans les ruches que j'ai en montagne, à plusieurs kilomètres de toute source de pollution.
Bon, mais il n'y a pas que les pesticides qui sont nocifs. Il y a les frelons asiatiques.
Il y a effectivement le frelon asiatique qui fait des ravages et contre lequel il est vraiment urgent de commencer à lutter. Mais il y a aussi des parasites, comme une maladie qui s'appelle la varroase, dont le vecteur est un insecte qui s'appelle le varroa, c'est un parasite qui se fixe sur l'abeille et qui l'affaiblit. Et je dirais que la mortalité plus importante des abeilles, nous on l'a constaté à partir du moment où ce parasite a commencé à être présent, il y a une vingtaine d'années.
Est-ce que les abeilles, qui sont des insectes intelligents, sont conscientes du danger? Est-ce que vous, qui êtes en observation permanente des ruches, vous les voyez presque avoir peur?
Je ne sais pas si l'abeille a une conscience comme on la voit nous. Par contre, il y a une forme d'intelligence parce qu'elle sait prendre des décisions en fonction de certains facteurs. Il y a certainement des dangers qu'elle sait éviter et il y en a d'autres qu'elle ne détecte pas et qu'elle ne sait pas éviter naturellement.
Ouais, on ne peut pas quand même leur faire confiance entièrement pour sauver l'espèce. Mais comment voyez-vous l'avenir de l'apiculture si vous avez des enfants et des petits-enfants qui un jour veulent reprendre votre exploitation?
Alors, je pense qu'il faut faire des travaux beaucoup plus conséquents sur la cause de la mortalité des abeilles. Il faut continuer les recherches, lutter contre le frelon asiatique d'une manière ou d'une autre. et chercher des solutions pour lutter contre la varroa.
Eh bien, on vous souhaite beaucoup de courage, Monsieur Rolly.
Merci, Monsieur Bouvard.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Aucun doute là-dessus. L'expression de la semaine que tout le monde connaît, même si tout le monde ne l'emploie pas, c'est les forces de l'ordre. Et il faut dire que, en deux mots, tout est dit. D'abord, la force qu'on déploie. Ensuite, l'ordre qu'on maintient ou qu'on rétablit. Et avec un processus qui se répète de semaine en semaine. Le vendredi, on témoigne sa confiance aux forces de l'ordre. Et le dimanche, on leur exprime la gratitude du peuple qu'ils ont sauvé du pire. Et puis, l'augmentation des désordres a abouti dit à ce qu'on augmente les forces de l'ordre, c'est-à-dire qu'il y a non seulement les CRS, les gendarmes mobiles, les policiers en tenue et en civil, mais il y a également les pompiers. Voilà. Alors, on n'en a pas fini avec les forces de l'ordre, surtout si aujourd'hui, et grâce à Renaud Muselier, qui a eu là une belle idée, la collecte atteint des sommets qui permettront à l'État de payer aux forces de l'ordre leurs fameuses heures supplémentaires.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Et c'est le générique de fin pour Allô, ici Bouvard. Philippe, au revoir, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Virginie. J'espère que vous êtes un peu rassurée, mais pas complètement.
Et tout de suite, sur RTL, on va faire un point sur l'information et ce sera votre rendez-vous politique avec le grand jury RTL Le Figaro LCI présenté par Benjamin Sportouche.